Radio Kaléidoscope 97 FM présente Au ras des rues, l'émission qui prend de la hauteur.
Bonjour, nous sommes mercredi 4 mai 2016. Vous écoutez Au ras des rues sur Radio Kaléidoscope et nous enregistrons dans les studios de la radio au village olympique d'un quartier de Grenoble, quartier sud exactement. Puisque Au ras des rues, c'est l'émission sur les quartiers sud. Et aujourd'hui, autour de la table, on a l'équipe habituelle avec Marie-France.
Bonjour.
Benjamin.
Bonjour.
Morgane.
Bonjour.
Et on a Pato à la technique. Alors, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, Au ras des rues-RKS 97FM. Ou bien vous pouvez nous suggérer, nous envoyer des commentaires sur notre boîte mail auraderu@lecrieur.net et le podcast pour les fervents auditeurs sur www.lecrieur.net. Alors, au sommaire de l'émission aujourd'hui. Alors, on va parler de pas mal de petites choses. On va commencer avec un petit point sur la CAF, le compteur Linky, ce qui se passe un petit peu en ce moment, des réunions jeunesse qui se sont passées sur le quartier, des mamans en colère à la Villeneuve. Rapidement sur le Collège des Saules, comment ça se suit là, les petites réunions qui se passent. La rencontre entre les APU et l'équipe pluridisciplinaire,
APU.
Les ateliers populaires d'urbanisme, pardon, et l'équipe qui est en train de travailler sur le projet de rénovation urbaine sur les Villeneuves. Et puis un petit point sur le budget participatif, puisque vous pouvez encore déposer vos projets jusqu'à vendredi et on parlera de quelques projets qui concerneront le quartier. Voilà. Alors je te laisse Benjamin pour
l'agenda. Alors à l'agenda, oui, le samedi 28 mai, ça sera la fête de quartier à la Villeneuve. Alors la fête de quartier, c'est un peu le moment qui réunit les différentes associations, les différents acteurs du quartier. Donc il y aura un village avec des stands des associations, il y aura un village repas, il y aura des animations et des jeux pour les enfants, des spectacles de marionnettes, il y aura une initiation au secourisme. Enfin voilà, il y aura plein de choses. Ça sera donc à la Villeneuve, allée des Tilleuls, donc c'est près de l'arrêt de tram La Bruyère, donc du côté de l'Arlequin Nord. Et ça sera à partir de 9h jusqu'à 18h. Et donc samedi 28 mai. Et donc pour préparer cette fête de quartier, il y a une réunion d'organisation qui aura lieu mardi 10 mai à la Maison des Habitants des Baladins au 31 Place des Géants. La réunion aura lieu à 18h. Et puis c'est la dernière semaine si vous voulez aider la Batucavi. Alors la Batucavi, c'est cette batucada d'enfants du quartier de la Villeneuve. Ils ont un projet de partir avec des enfants de Pont-Clé d'Abada Capoeira pour partir à Rio de Janeiro à l'occasion des Jeux Olympiques de Rio cet été. Donc voilà, ils ont besoin de 25 000 euros pour financer leur voyage. Donc ils ont lancé une souscription sur internet. Ils en sont à peu près à la moitié en ce moment. Donc il y a encore un peu besoin d'argent. Donc n'hésitez pas à les aider, c'est sur le site KissKissBankBank, donc www.kisskissbankbank.com.
Voilà, K. Si vous... K, avec un K.
Banque avec un K, ouais.
Et KissKiss aussi.
Kiss avec un K, oui, il n'y a que des K dans ce...
Bon, on espère qu'ils réussiront leur but.
Et oui, oui, et puis surtout c'est un projet assez ambitieux puisqu'ils vont jouer sur la plage les plages de Rio et puis en plus ils vont en faire un peu de développement dans les favelas parce qu'ils vont habiter dans les favelas de Rio.
Ils sont chez l'habitant.
Ils sont chez l'habitant, voilà. Donc l'idée c'est aussi de faire un partenariat entre les quartiers populaires de Rio et ceux de Grenoble.
Oui, puis ce qui est super intéressant c'est que c'est une culture qui vient du Brésil en fait.
Et oui,
que ce soit
à la fois capoeira et la batucada. Ouais. Voilà. C'est retour aux sources.
C'est ça. quelqu'un d'autre pour l'agenda de la semaine ?
De la semaine, non, mais puisqu'on parlait de la fête de quartier, la fête du village olympique Vigny-Musset, ce sera le samedi 11 juin. Très bien. Est en avance là, mais on peut déjà l'annoncer.
et pour l'actualité, alors, Benjamin ?
Alors, dans l'actualité des différents articles qu'on a publiés récemment, il y a celui sur la fresque sur la Bourse du Travail. Donc, la Bourse du Travail, c'est voilà, cette maison des syndicats qu'il y a au sud de la Villeneuve, à côté de Grand Place, du centre commercial Grand Place. Donc, il y avait une fresque sur la Bourse du Travail qui avait été réalisée par Ernest Pignon-Ernest, qui est un peu un précurseur dans le domaine de l'art urbain, en fait. Qui a fait...
Ah oui, il y a des fresques partout dans le monde, non ?
Oh, je ne sais pas s'il y en a partout dans le monde, mais il en a quelques-unes.
En Afrique du Sud, je sais
qu'il y en a. Oui, il a pas mal bourlingué, mais il en a fait aussi en France, pas mal en France en fait. Donc c'est une fresque qu'il a réalisée en 1979 sur la Bourse du Travail, et donc qui est un peu une compilation de différentes affiches historiques des luttes syndicales et des luttes des travailleurs. Donc il a retrouvé la première affiche qui part de la journée de 8 heures, donc c'était... au tout début du XXe siècle. Il y avait la première, une affiche du 1er mai 1936, donc avec l'arrivée du Front Populaire. Il y avait une affiche qui relate la venue de Louise Michel, donc révolutionnaire bien connue, qui arrive dans le Dauphiné. Donc c'est que des affiches historiques qu'il a recopiées sur le mur de la Bourse du Travail. Et donc cette fresque qui a été réalisée en 1979 est très très dégradée à cause d'une malfaçon du mur en fait. Et la galerie Space Junk, qui est donc spécialisée dans le street art, a lancé une souscription sur Internet pour pouvoir rénover cette fresque. Alors moi, j'ai contacté Ernest Pignon-Ernest, qui au début n'était pas très chaud pour ce projet.
Qu'est-ce qu'il en dit ? Oui.
Bah lui, il est plutôt pour que les œuvres doivent être éphémères, surtout le street art doit être éphémère. Donc il était plus dans l'idée de rénover le mur qu'un autre artiste réalise une fresque. Et puis finalement, il s'est laissé convaincre. Il a dit qu'en cette période de mobilisation contre la loi travail, c'était bien aussi qu'on se remémore les luttes syndicales. Donc il a dit, bon, pourquoi pas la rénover en fait. Donc maintenant, il soutient le projet. Mais il y a quand même besoin de sous, de 50 000 euros donc, pour la rénover. Voilà, si vous voulez donner, c'est sur Internet, sur Ulule, le site Ulule.
Voilà. Merci. Morgane, tu avais aussi des actualités ?
Non, pas spécialement.
Le CCAS ou...
Ah oui, alors on peut parler vite fait. Oui, il y a une jeudi. Jeudi, nous étions le je ne sais plus combien.
26, je crois.
Le 26.
Le 26. Non, 28, 28. Le 28. Pardon, le 28.
Donc c'était mercredi 27.
Voilà.
Il y avait une mobilisation devant le CCAS. Donc le CCAS, c'est le Centre Communal d'Action Sociale, qui est situé à la Villeneuve. Et une mobilisation, un rassemblement en fait, pour deux familles qui avaient été expulsées du 113 du cours de la Libération, c'est ça Morgane ?
C'est ça, oui.
Deux familles donc, qui squattaient un bâtiment au 113 cours de la Libération, qui se sont fait expulser. Donc il y avait un rassemblement en soutien par des membres de la CISEM, donc... l'office d'aide aux migrants, il y avait des gens d'hébergement logement, il y avait des gens du droit au logement. Voilà, donc il y avait un petit rassemblement devant le CCAS. L'idée, c'était de rencontrer quelqu'un du CCAS, mais on n'a même pas pu rentrer en fait dans le CCAS. Ils nous ont fermé la porte, et ils ont tout barricadé, ils ont éteint les lumières. Donc il y avait des gens qui attendaient, des gens qui n'avaient rien à voir avec la mobilisation, qui voulaient rentrer au CCAS, qui n'ont même pas pu rentrer. Donc on est resté devant pendant une heure avant de se replier sur le tram en fait, parce qu'il n'y avait rien à faire.
Et du coup la suite c'est que ce que j'ai appris c'est que le groupe donc, qui s'était mobilisé devant le CCAS a migré jusqu'à la mairie pour obtenir des réponses puisque le CCAS était fermé et apparemment sur les deux familles qui était donc en hôtel. Il y en a une qui a été prolongée jusqu'à mardi, là, donc mardi hier. Et il y a eu un diagnostic qui n'avait pas été fait de la famille donc ce lundi, sachant que l'autre famille n'a pas été du tout prise en charge et donc se retrouve à la rue actuellement. Voilà, c'est tout ce que... Donc, ce que je peux apporter peut-être si sur quelque chose de plus général, ce qu'on se rend compte dans les mobilisations autour du logement en cette fin de trêve hivernale, c'est que les expulsions ont été retardées comme à peu près chaque année par la prolongation des dispositifs pour des raisons souvent de météo qui sont avancées politiquement. Donc voilà, les dates sont reculées, les centres sont fermés, mais les familles orientées sur des chambres d'hôtel, donc isolées, ce qui complique aussi le suivi des associations vis-à-vis des personnes, puisqu'elles sont isolées. Et dernièrement, on a des nouvelles de personnes, notamment qu'on connaît, qui étaient sous la menace d'une expulsion parce que ça faisait quelques années qu'ils étaient dans un logement sans proposition de continuité, donc qui est une obligation légale, un droit. Et donc, ils étaient sous la menace d'une expulsion. Et là, ils ont été expulsés. Donc, un ménage a été expulsé de son hébergement. Et de l'autre côté, on a des familles qui sont à la rue. Et on apprend qu'ils ont une proposition de logement. Donc, on suppose que les personnes qui se font expulser, c'est pour loger les personnes qui sont dans la rue. C'est un peu le jeu des chaises musicales. Donc c'est assez bien de connaître cet état de fait.
Oui, à propos des migrants, moi j'ai entendu parler d'une grande, ça va s'appeler les états généraux de la migration, une grande rencontre qui va avoir lieu à la Maison de la Culture, à la MC2, au début décembre de cette année.
D'accord.
Alors je ne sais pas, je ne connais pas le contenu, mais il me semble que c'est des organisations de coordination sur les migrants qui doivent organiser ça. Il faudra suivre, voir comment ça peut s'articuler avec les migrants qu'on a sur place.
Enfin, les questions d'hébergement, ce n'est pas qu'une question de migration. Non. C'est aussi la réalité de beaucoup de personnes sont là depuis toujours.
Et la loi travail n'avait rien arrangé. Alors justement, je propose d'écouter On lâche rien de HKL et Saltimbanque, puisque je rappelle qu'on est le 4 mai et dimanche, c'était le 1er mai, fête du travail.
Des travailleurs.
Fête des travailleurs.
Des luttes des travailleurs.
Ouais.
Et mois de mai...
Fête du travail, c'est pétain. Hein.
Pardon. Voilà, on écoute.
Fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y'a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants, y'a pas à dire, ça peut aider, d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, 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 on lâche rien
Donc, ce qu'on se disait, c'est que Benjamin apparaît sur la vidéo du clip de cette chanson. Donc, si vous voulez jouer à retrouver Ben sur la vidéo, vous pouvez nous envoyer le timing où il apparaît à notre adresse mail et on vous offrira une nuit chez l'habitant à la Villeneuve et bien sûr une invitation à Radio Kaléidoscope. Voilà,
pour rencontrer Pato en direct.
Pour rencontrer Pato en direct.
Donc n'oubliez pas de mettre dans le titre jeu concours et mettre exactement le temps où on aperçoit Benjamin. Donc on enchaîne tout de suite avec un petit tour du côté de la CAF avec toi Morgane.
Oui, alors voilà, je vais donc ce matin, comme beaucoup de personnes en France, je suis allée consulter ma situation CAF, rubrique mon compte avec mes codes, et je me suis rendu compte avec stupeur que depuis 4 mois, ma situation n'est toujours pas régularisée. Suite à une erreur donc de la part de la CAF, bien évidemment, pas de la mienne. J'étais un peu énervée parce que c'est une situation qui dure après des coups de téléphone multiples, un rendez-vous à la CAF avec une conseillère qui est censée avoir réglé mon problème, une demande de remise de dette, enfin tout ça. Et voilà, alors donc ce matin, je descends dans la rue et puis j'ai rencontré une personne qui est employée du PIMS. Alors je ne sais pas si vous connaissez le PIMS. C'est le point info médiation multiservice qui est en place à la maison des habitants du patio, au 97 galerie de l'Arlequin. Et c'est un lieu qui a été mis en place par les pouvoirs publics pour faciliter l'accès aux droits pour les personnes qui peuvent avoir des problèmes de compréhension, par exemple parce qu'elles ne parlent pas très bien la langue ou la langue française, ou qui ne comprennent pas les démarches qui ne sont pas toujours simples, les démarches administratives. Donc voilà, ils ont un rôle de médiation
c'est
et d'accompagnement.
C'est aussi un point où il y a accès à Internet, où tu peux imprimer. Donc voilà, c'est aussi l'accompagnement dans la réalisation des démarches, des dossiers de...
Tout à fait.
Administre-casse-pied.
Voilà. Et pour la petite histoire, les PIMS, il y en a 64 en France qui ont été mis en place en 20 ans. Voilà, les chiffres étaient de 95 à 2015. Je suppose que depuis, ça n'a pas forcément beaucoup évolué. Donc voilà. Et elle me raconte, cette personne, sur le trottoir, que la CAF en ce moment a 2 mois de retard dans les traitements de dossiers et qu'en fait, il y a plein de personnes qui se retrouvent à faire des demandes de remise de dette alors qu'elles n'ont pas forcément... en fait, elles ne sont pas forcément en tort, mais on leur demande des recouvrements. Donc, c'est des erreurs parfois informatiques, peut-être, enfin voilà, comme il peut y en avoir. Sauf que ça prend tellement de temps qu'en fait, les personnes n'arrivent pas à survivre parce que c'est des aides sociales et qu'en fait...
Elles en ont besoin
pour vivre au quotidien et 4 mois d'attente, ça devient compliqué à gérer pour les portefeuilles. Donc voilà. Et alors, ce que j'ai trouvé assez rigolo, je suis allée faire une petite recherche. Et donc, sur le site, ils indiquent qu'il y a 1 mois de retard. Ils encouragent les gens à ne pas appeler, à ne pas envoyer et à attendre gentiment en suivant sur la rubrique Mon compte, l'évolution de vos dossiers. Voilà. Donc, petit décalage entre la version du PIMS et la communication de la CAF. Et j'ai continué mes recherches pour voir un peu qu'est-ce qu'il en était de l'actualité sur cette CAF. Et je suis tombée sur 2 articles. Un sur bastamag.net de 2012, fin 2012, qui s'appelle « Quand la CAF devient une machine à broyer usagers et salariés ». Et qui parle de la politique de suppression de postes à la CAF. Et en même temps, du phénomène de la crise qui fait augmenter en fait les besoins, les personnes éligibles. Aux aides, aux allocations, etc. Et donc, cette double situation qui fait que il y a des retards dans les traitements des dossiers, les accès aux droits, etc. Puis, il y a un autre article du Postillon, en décembre 2012, donc juste après, qui reprend le thème, qui s'appelle « CAF toujours, tu m'intéresses », qui est parti d'une journée de grève. de la CAF de l'Isère, suite à la fusion de la CAF de Vienne et de Grenoble, qui deviennent donc à ce moment-là CAF de l'Isère, et qui raconte la désorganisation du service et les catastrophes de retard que ça a généré. Et ils insistent sur le fait qu'aujourd'hui, apparemment, donc, les agents de la CAF ont des indicateurs de réussite. Et qu'en fait, ces indicateurs-là qui débloquent des primes de salaire pour eux, reposent sur leur efficacité à traiter les dossiers, sachant que tous les dossiers qui ont plus de 15 jours de retard ne rentrent pas en compte dans le calcul de cet indicateur. Ce qui fait qu'on reçoit en fait les demandes en mettant de côté les dossiers qui sont de plus de 15 jours. Ce qui fait qu'il y a des retards assez conséquents. Voilà. Donc,
il y avait tellement de retard qu'à un moment donné, ils ont même fermé la CAF pour pouvoir traiter les dossiers en retard. Ils l'ont fermé pendant un mois, je crois.
C'est ça. Alors apparemment, dans certains départements, ils ont fermé une semaine et ils ont réussi à traiter un tiers des retards. Enfin voilà, c'est vraiment du grand n'importe quoi.
Et comment ça se passe quand on va les voir directement ?
Alors voilà, quand on va les voir, donc il y a les deux versions, il y a le coup de téléphone. Donc le coup de téléphone, c'est une demi-heure de boîte vocale où on cherche et où en fait, à chaque fois, il peut y avoir des erreurs parce que souvent, il y a des pannes, parce qu'il y a trop d'appels. Alors on vous demande votre numéro et puis après, on vous dit bon, c'est bon. Ah bah non, en fait, votre numéro n'est pas valide. Alors vous retapez le numéro et puis en fait, vous revenez au début.
À la caisse départ. Voilà,
et donc,
et tu connais la musique d'accueil par cœur.
Alors, petite astuce, mais ça risque de bloquer si je vous le dis, mais c'est pas grave, je vous le dis quand même. Passez par le côté entreprise. Donc ils répondent beaucoup plus vite, même si, enfin voilà. Ça c'est le téléphone. Et puis il y a la visite à la CAF. Alors la visite c'est très intéressant parce que maintenant on n'a plus de guichet, on ne va plus voir quelqu'un, mais on arrive dans une file qui n'a pas de bout et on est accompagné vers un ordinateur pour pouvoir faire la même chose que ce qu'on peut faire de chez soi. Grâce à un accompagnateur. On n'a plus de personne en face, c'est l'ordinateur qui est en face de nous. Et on fait notre demande de rendez-vous sur notre page, sur notre compte, grâce à un accompagnateur. C'est très intéressant parce que, apparemment, le taux d'agressivité des allocataires fait qu'ils se protègent et donc on ne peut plus avoir accès à un guichet direct.
Oui.
Voilà. Voilà, alors juste pour finir, il y a un observatoire qui a été créé à Grenoble qui s'appelle l'ODENOR, qui a été créé au sein du laboratoire PACTE à l'Institut d'études politiques de Grenoble, qui aujourd'hui est...
ça veut dire quoi, ODENOR ?
ODENOR, alors ça signifie Observatoire des non-recours aux droits et services. Donc c'est un observatoire qui a pour but de
comptabiliser,
d'étudier le nombre de personnes qui renoncent à accéder à leurs droits parce que ça coûte trop de temps, d'énergie, d'argent parfois.
Ou qui ne sont pas au courant des démarches.
Mais souvent, c'est quand même
un découragement plutôt.
Un découragement d'avance. Et donc, d'évaluer en fait comment les politiques publiques ne sont pas adaptées aux besoins et peuvent même mettre en difficulté les personnes. Voilà, donc l'ODENOR a produit un certain nombre de documents que vous pouvez consulter. Vous pouvez aussi déposer des témoignages sur leur site. Et aujourd'hui, ils animent l'axe thématique « Questions sociales et inégalités » au sein de la Maison des sciences et de l'homme Alpes. Voilà.
Sur le campus universitaire ?
Alors oui, je ne vais pas mettre ma main à couper là-dessus, mais allez chercher Maison des sciences de l'homme
Alpes. Pas très loin de l'arrêt du tram bibliothèque.
Mmh. Voilà, très bien. Et voilà, je m'arrêterai sur ce constat, donc que... eh bien, il y a une forte politique depuis des années de déshumanisation du service public qui augmente des deux côtés parce que la situation n'est pas tenable et en fait, tout le monde se replie et a peur de l'autre et je trouve que c'est assez inquiétant.
Oui,
voilà.
Oui, et puis là, on parle de la CAF, mais c'est pareil
dans les autres. La caisse d'allocation familiale, c'est ça.
C'est pareil dans les autres services publics, comme à Pôle emploi, comme à la Sécu, c'est exactement les mêmes problématiques. On ne peut plus rencontrer aucun conseiller.
Et les mêmes techniques de management, voilà. Comme on dit.
C'est le service public et on le gère comme une entreprise privée. Enfin, on souhaiterait le gérer comme une entreprise privée, alors que ça ne répond pas aux mêmes problématiques.
Et puis, ça pose la question du coût, en fait, de ces dispositifs.
Du coût humain et du coût réel.
Oui, mais justement, sur la déshumanisation des services, je voulais enchaîner avec samedi dernier, il y avait une manifestation contre le compteur Linky. On a déjà eu l'occasion d'en parler ici en début d'année.
Compteur pour ?
Le compteur, en fait, c'est un compteur intelligent. C'est un compteur électrif. Voilà, donc c'est ERDF, donc c'est l'électricité réseau de France. Donc c'est eux qui possèdent tout le réseau électrique de France. Et ensuite, généralement, c'est EDF qui distribue l'électricité. Donc nous, on connaît surtout EDF parce que c'est avec eux qu'on contracte, enfin qu'on fait les contrats. Et d'ailleurs, à Grenoble, c'est GEG et pas EDF.
D'ailleurs, c'est pour ça que le compteur Linky ne va pas être installé tout de suite à Grenoble, vu que c'est GEG qui a la régie de l'électricité. Voilà. Donc, ce n'est pas ERDF.
Donc, le compteur Linky, il est mis en cause par pas mal de militants pour l'instant, mais de plus en plus de personnes. Pour ses affaires, pour ses aspects déshumanisants, puisque l'idée c'est d'un compteur intelligent où il n'y aura pas besoin de venir relever chez vous le compteur tous les mois, tous les six mois, mais il n'y aura pas besoin de venir non plus pour couper l'électricité si vous ne payez pas votre facture. On pourra aussi donc surveiller votre consommation en temps réel. Et on pourra donc savoir si vous êtes chez vous, si vous avez laissé votre lumière allumée. Enfin, voilà. Pas mal de petits trucs comme ça qui font un peu appel à la science-fiction, 1984, voilà, le contrôle de la société un petit peu. Ouais. On y va petit à petit.
Bientôt on va recevoir un appel sur son portable pour nous dire « vous avez laissé la lumière allumée
». On peut imaginer ça, on peut imaginer ça.
Père moins cher.
Et voilà, je voulais juste enchaîner. Donc, il y avait la manif samedi. Et dans la manif, j'ai entendu parler de réunions qu'il allait y avoir sur les copropriétés de la Villeneuve pour comment dire non au compteur Linky et comment se protéger de ça. Puisque quand on est locataire ou propriétaire, on a le droit de refuser la pose du Linky. Et c'est de ça que va parler les prochaines réunions. Et quand on aura des infos, on vous donnera des...
Surtout qu'il faut faire attention parce que des fois, les compteurs sont installés dans les parties communes et ne sont pas dans les logements et les changent sans vraiment vous prévenir. Donc...
Oui, c'est ça, vous recevez une lettre éventuellement, mais ils n'ont pas besoin de prendre rendez-vous avec vous
pour changer votre compteur.
Pour changer votre compteur. Et puis j'imagine que les bailleurs sont plutôt pour, finalement. Puisque... enfin voilà, ça c'était samedi dernier dans le centre. Et pour l'instant, on va écouter Zebda avec Motivé, parce qu'on est encore en mai. Et...
Un grand
et la lutte continue.
Un grand classique.
Motivé, motivé,
il faut se motiver.
Motivé, motivé.
toujours sur Aura des Rues, Radio Kaleidoscope.
En 1997.
En 2016. 4 mai, mercredi 4 mai. Et on va parler d'une réunion jeunesse qui s'est tenue au village olympique avec Marie-France.
Oui, donc c'était cette réunion jeunesse-éducation, c'était une réunion qui concerne les questions des habitants et par rapport aux problèmes des jeunes, soit des jeunes qui posent des problèmes, soit des jeunes et de l'éducation en général. C'est une réunion qui avait été demandée peut-être il y a assez longtemps. Dans des réunions avec la mairie, donc pour essayer de faire un peu le point sur tout ce qui existe au niveau de la prise en charge, on va dire, des jeunes. Jeunes entre 12, 15, 18, 25 ans, c'est à peu près les créneaux dont qu'on a évoqué. Cette réunion avait été retardée du fait que, comme on le sait peut-être, mais le CODAS, c'est-à-dire le Comité Dauphinois d'Action Socio-Éducative, qui est un organisme qui est financé à 100% par le département et qui s'occupe qui ont plusieurs structures dans le département et qui ont entre autres un travail d'éducation, un travail de prévention et un travail de rue dans les quartiers, en particulier quartier politique de la ville, comme c'est le cas pour la Villeneuve et pour le village olympique. Donc, il y a eu de nouvelles mesures au département avec la nouvelle assemblée. Et la nouvelle politique, c'est de dire les budgets doivent baisser. Donc, on vous demande de ne plus vous occuper des jeunes au-delà de 18 ans. Donc, entre les 18 et 25 ans, ils ont la consigne de ne pas s'en occuper. Donc voilà, ils ont pris un temps pour se retourner, pour voir pour les jeunes qui avaient plus de 18 ans pour essayer de terminer l'aide qu'ils avaient qu'ils faisaient avec eux, hein, que ce soit pour le travail, le logement, les démarches administratives, etc. Et voilà, donc on s'est retrouvés le 27 avril. Il y avait peu d'habitants. Puisque la demande venait en principe de l'union d'une réunion qui avait eu lieu avec des habitants et la mairie, mais il y avait par contre pratiquement tous les intervenants, que ce soit de la MJC, de la Maison des Jeunes et de la Culture, puisque eux ont 280 adhérents jeunes sur le quartier qui font un très très gros travail au niveau que ce soit accompagnement, que ce soit surtout aide scolaire. La MJC, il y avait un responsable de la mairie, une responsable pour l'accompagnement des jeunes, pas un élu, hein, mais une responsable d'un service, et donc le CODAS, et également les responsables de la mission locale pour les jeunes. Voilà, donc tous ces différents services ont fait un peu le point, d'abord pour se définir, parce qu'on ne s'y retrouve pas forcément dans l'ensemble des dispositifs et des actions qu'ils font. On a appris beaucoup de choses sur les... Et finalement, il y a peut-être plus de possibilités que ce qu'on croit dans le suivi des jeunes qui sont sur le quartier, y compris des jeunes qui sont déscolarisés ou qui sont dans des difficultés d'insertion à tous les niveaux. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc les jeunes au CODAS, ils font un travail entre Villeneuve et le village olympique. Ils ont un local 12 rue d'Audreau, c'est juste entre les deux quartiers, là, près du tramway. Ils reçoivent les jeunes individuellement. Ils ont parlé... à plusieurs reprises d'une démarche de aller vers, la démarche aller vers dans la rue et ils font des tours de quartier par rapport aux jeunes qui sont déscolarisés ou qui posent d'autres problèmes sur les quartiers. Ils essayent de créer des relations de confiance, mais dans la mesure où c'est des relations de confiance, personne ne peut forcer les jeunes à avoir une demande ou à accepter une aide de la part des éducateurs ou des services du quartier.
Ça demande du temps aussi.
Et ça demande du temps, voilà, c'est ça.
Il faut déjà être identifié, puis ensuite engager un dialogue, se connaître.
Il y a un travail qui se fait avec le CODAS. Ils utilisent le local de l'Union de quartier du village olympique, un travail d'accueil une fois par semaine. Voilà, le bilan a été fait également la semaine dernière de cette action qui va se poursuivre. Donc dans le quartier même, ils ont insisté aussi pour dire que c'était important de pouvoir faire un travail d'interstructure, c'est-à-dire avec toutes les structures du quartier qui existent, que ce soit les représentants des habitants comme les autres structures qui représentent les parents ou les familles, etc. Et entre eux-mêmes, quoi, entre les missions locales, MJC, CODAS. Voilà. Il y a un éducateur, le CODAS aussi fait un travail sur le collège. Et il y a des élèves qui sont pris en charge pendant le temps où ils ont une sanction, où ils sont mis à la porte de la classe ou des choses comme ça. Entre 30 et 40 élèves sont concernés par ce genre de dispositif. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? On a évoqué les nouvelles missions que les éducateurs ont reçues du département. C'était entre autres, il y avait plusieurs points donc, qui étaient une attention particulière au décrochage scolaire, donc, et c'est une des priorités. Il y a une autre priorité qui est peut-être nouvelle, celle-là, c'est-à-dire que ça concerne la prévention de la radicalisation, entre guillemets, c'est-à-dire qui...
radicalisation.
Voilà, la définition.
C'est tous les petits jeunes anarchistes qui
partent en Syrie.
Qui
partent en Syrie plutôt. Hein. C'est plutôt le départ avec.
En ce moment, ils essaient plutôt d'en revenir de Syrie. Mais bon.
Maintenant, oui. Et puis, un troisième point qui est l'insertion par l'économique. Et qu'il y a toujours un problème d'accompagnement familial. Voilà.
Loin, on a eu les mêmes sujets sur le quartier de la Villeneuve. Là. Moi, j'ai rencontré des mamans qui sont montées en collectif. Qui s'appellent,
on nous a évoqué ça, oui, les mamans en colère.
Les mamans d'Arlequin, qui ont signé une lettre ouverte qui s'appelle « Maman en colère », comme tu dis. Et donc, qui contestent, qui dénoncent l'inaction des pouvoirs publics à destination des jeunes. Donc, eux, c'est plus à partir entre 15 et 25 ans. Et elles sont toutes mères de grands ados. D'ados ou de grands ados. Et donc, elle dénonce l'inaction des pouvoirs publics, notamment donc autour de deux grands thèmes qui sont les loisirs et l'éducation. Alors, sur les loisirs, nous, on n'a pas de MJC sur le quartier. C'est une association qui s'appelle une association d'éduc-pop qui s'appelle l'Accordé.
Oui.
Et qui ne fait quasiment plus aucun atelier pour les ados pendant les vacances d'été, en fait. Il y a juste un séjour pour 7 personnes, en fait. Face au nombre de jeunes, c'est complètement ridicule, en fait. Donc, il n'y a aucune offre de loisirs pour les ados sur le quartier. Et donc, ça, c'est sur l'aspect loisirs et sur l'aspect éducation. Donc, pareil, dénonce aussi l'absence d'accompagnement en cas de décrochage scolaire. La personne que j'ai interviewée, là, c'est une maman qui a eu beaucoup de mal. Son fils a été viré de son lycée. Elle a eu énormément de mal à lui trouver un autre lycée, en fait, pour le rescolariser.
Parce que normalement, on a évoqué ce problème-là et en principe, l'éducation nationale doit trouver un lieu pour ceux qui...
Alors, s'ils ont moins de 16 ans, c'est oui, ils sont obligés. Mais s'ils ont plus de 16 ans, ils traînent beaucoup la patte à retrouver une place en lycée.
Dans autre lycée.
Ils ne sont pas obligés d'être scolarisés à partir des 16 ans. Entre guillemets, si le lycéen est dehors, ils n'en ont rien à foutre. Le non-accompagnement des enfants déscolarisés et puis aussi les difficultés sur les stages, en fait. Parce que c'est en troisième, notamment, on doit faire un stage en entreprise et les gamins de la Villeneuve ont énormément de mal à trouver un stage. Là, il y a une mère qui m'a dit qu'ils ont contacté 80 entreprises différentes pour trouver un stage, dont 20 via des relations, donc des gens qu'ils connaissaient. Aucun n'a voulu prendre son fils en stage. Donc voilà, donc c'était, elles sont montées en collectif, elles ont écrit une lettre ouverte, elles ont rencontré quelques acteurs, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose eu de fait pour les aider les ados qui sont...
C'est un problème qui est remonté au niveau du Conseil citoyen indépendant du secteur, là, le problème des décrochages. Et là, il y a un travail qui est fait d'essayer de contacter toutes les associations, les organismes qui font un travail sur les décrochages. Là, on a appris donc à cette réunion du 27 avril qu'il y avait un certain nombre de dispositifs. Il faudrait faire une synthèse un peu et puis voir ce qui est effectivement disponible ou peut-être qu'il y a des choses qui existent et qu'on n'utilise pas. Apparemment, il y a des choses qui existent pour pour les décrocheurs. Mais c'est à construire encore, je pense, ou à peut-être à regrouper toutes ces demandes qu'il y a, que ce soit à la Villeneuve, que ce soit sur le village olympique.
Est-ce que dans cette mobilisation-là des mamans en colère, il y a justement des raisons qui sont avancées d'inadéquation, par exemple, peut-être des dispositifs, ou est-ce que ça en a parlé?
Par exemple, sur les loisirs, sur la cordée, clairement, ça manque un manque de budget, en fait. Ils ont eu deux baisses de subventions, la consécutive de 50 000 euros. Donc, tu enlèves 100 000 euros sur ton budget, ça... Voilà, ils n'ont plus les moyens en fait, d'organiser des ateliers pour les plus grands. Puis surtout, il y a sur le quartier, il y a le projet de créer un espace jeunesse comme il y a sur le quartier 2, donc du côté des Géants.
À Villeneuve.
À Villeneuve, donc ça serait une espèce de centre social pour les jeunes, mais géré par la mairie directement. Avant, donc, c'était la Cordée qui s'occupait de ça, et maintenant, ça va être géré par la mairie. Sauf que ça va ouvrir qu'en 2018, et la mairie a déjà coupé les subventions sur les jeunes à la Cordée. Donc d'ici 2018, en fait, il n'y a plus aucun atelier pour les jeunes. Donc sur l'aspect loisirs et puis sur l'aspect éducation, personne ne va vraiment à la rencontre des jeunes en fait pour savoir qu'est-ce qu'ils font dans la rue, pourquoi ils ne sont pas scolarisés.
On parle de la démarche aller vers dans les rues.
Les jeunes, surtout quand ils ont entre 16 et 18 ans, ils aimeraient bien travailler, sauf que quand tu as moins de 18 ans, tu ne peux pas forcément travailler, c'est très très compliqué. Donc, et puis la mission locale, ils ne peuvent rien faire. Tous les acteurs, tous les pouvoirs publics se renvoient un peu la balle en fait sur ces questions-là, quoi. Alors que c'est un problème global en fait qu'il faut.
Dans notre réunion, on a évoqué le problème des services jeunesse pour les 16-25 ans qui essayent de proposer des services civiques ou des jobs d'été dans le cadre de la mairie. Et, bon, par exemple, on nous disait que sur les 35 jeunes qui avaient été pris en service civique, il y en avait 19 qui étaient des décrochés, entre guillemets. Donc, apparemment, il y a aussi une politique pour de faire des efforts dans ce sens-là. L'objectif étant pour la mairie d'en avoir 50% qui soit un public de décrocheurs.
Ben, ça fait pas mal de choses à dire en fait au pouvoir public qui se plaignent souvent des jeunes des quartiers en fait, et en fait on peut voir ici qu'ils mettent pas les moyens non plus pour que les choses bougent.
Il y a donc un site sur la ville où on peut trouver tous les dispositifs d'accompagnement possibles, hein. Moi je sais pas,
c'est bien beau de mettre un site sur la ville pour dire tous ces dispositifs, faut qu'aussi sur le terrain ils y soient, quoi.
Voilà.
C'est ça. Alors je vous propose d'enchaîner avec une chanson de Kenny Arcana, Ils ont peur de la liberté. Une chanson extraite de l'album Entre Ciment et Belle Étoile.
Le temps c'est pas de l'argent, cette connerie nous affaiblit. Ton temps c'est ta durée de vie et Dieu nous a fait libre. Tout va trop vite, là où la mort se profile, où Babylone prend la tête avec ses histoires de profit, où les cœurs sont trop vides, il y pousse des gros frères, la haine est trop vive. Et les médias considérés comme prophètes, à vouloir trop faire, on a zappé l'essentiel. Des mensonges on nous a offert et devine qui s'en sert. Là où ça brille la conjoncture, ça vénère l'économie, où il y a peu d'êtres humains parmi les êtres économiques, où ça construit sa propre prison par sécurité. Camarades, ils ont peur de la liberté. Ceux qui sans intérêt ne savent pas faire un geste. Ils nous parlent de respect mais ils flinguent notre terre. Ils se battent pour la paix et pour ça font la guerre. Camarades combat le doute car ils aimeraient te corrompre, te barrer la route ou te convaincre qu'elle est trop longue. N'écoute que ton intuition, suis là par tous les temps. Marche avec la foi, c'est la chance que tu fréquentes. Ils nous enseignent la peur que l'on reste entre leurs clôtures. Faisons briller nos différences car leur ciel est obscur. Suis ta route, chacun à la sienne. Méfie-toi des temps modernes qui fabriquent les êtres humains à la chaîne. Aimeraient nous foutre des puces dans la chair, frotter la marche au Karcher. Créature d'argile corrompue pour pas cher. Dites aux enfants du système qu'ils sont enfants de la terre et que les enfants de la rage ne sont pas enfants de la guerre. Camarades,
ils ont peur de rêver, ils ont peur de penser, ils ont peur du changement, ils ont peur de la liberté, ils ont peur de la différence, ils ont peur de leur prochain, ils ont peur de la chance, du bonheur et du lendemain.
Ils sont effrayés, ils aimeraient t'effrayer avec leur crainte et leur phobie. Reste maître de tes pensées, ils sont sclérosé. Et ils ont baissé les bras, se sont sautés les murs de ces prisons cérébrales, camarades. Vite donnera raison, le chemin est long et d'embûches sera plein. Ouvre-toi au monde et le monde sera tien. La connaissance est la force et la vie. Il faut connaître le passé pour comprendre le présent et deviner l'avenir. Savoir lire entre les lignes librement t'amène à être maître de ta vie si tu sais penser par toi-même. N'oublie pas en ton âme cette flamme allumée. N'oublie pas l'enfant en toi et les rêves qui l'animaient. N'oublie pas. De ton regard, même si pour la paix se montait dans le retard, nous nourris de cette envie de tirer dans le tas pour que nos rêves finissent mutilés dans le drame. La beauté de la vie dépend de ton regard, même si pour la paix se montait dans le retard, nous nourris de cette envie de tirer dans le tas. Mais la beauté de la vie dépend de ton regard, camarade. Méfie-toi, le temps voudrait te corrompre, car c'est dur d'être incompris parmi les prétentieux, parmi ceux qui ont oublié qu'on n'était rien d'autre que de simples terriens, tous égaux devant Dieu, camarade. Va où ton cœur te porte, camarade. La vérité que tu portes en toi vaut bien plus que toutes celles établies. Va où ton cœur te porte, camarade.
Voilà, vous êtes sur Radio Kaléidoscope, l'émission Aura des rues, l'émission qui parle des quartiers sup de Grenoble. Et je vais commencer par faire un petit retour sur la réunion de jeudi dernier qui a eu entre les ateliers populaires d'urbanisme et le groupement, enfin l'équipe pluridisciplinaire là, qui est en train de travailler sur la rénovation urbaine du quartier, des quartiers des Villeneuve, donc Grenoble, Échirol et le village olympique.
Sans oublier qu'on oublie toujours, oui.
Donc, puisque les ateliers populaires d'urbanisme étaient constitués face au premier projet de rénovation urbaine, ils avaient quand même pas mal travaillé, réalisé des bons un diagnostic sur une vision du quartier en fait qui était dit complètement différente de celle proposée par vue par la première équipe d'urbanistes. Et là, il s'avère donc qu'il y a une nouvelle équipe pour préparer le deuxième projet de rénovation urbaine, qui est un peu plus ouverte à la concertation, à la co-construction, comme la loi Lamy l'exige, la dernière loi sur la politique de la ville, qui concerne aussi la rénovation urbaine. Donc je rappelle que ce groupement, il est notamment chef de file, c'est Passager des Villes, qui est donc un cabinet urbaniste, architecte du côté de Lyon. Et pour, en assistance, tout ce qui est côté concertation, dialogue avec les habitants, il y a le cabinet qui s'appelle Ville Ouverte. Et notamment, il y aura Priscilla, qui est une jeune sociologue urbaniste, qui va tenir des permanences, je crois que c'est à partir de mi-mai, au patio tous les vendredis. Je vous redirai un peu plus tard quand ce sera vraiment
en place.
Voilà. Donc ce qui s'est passé, c'était surtout un échange sur la vision du quartier en fait ce jeudi-là. Il n'y a pas vraiment été question de comment travailler ensemble encore, mais plutôt poser un référentiel commun et pouvoir avancer. Je pense que c'est déjà une bonne étape. Moi j'y étais pas, mais il paraît que l'ambiance était plutôt détendue et
constructive
et que donc ça promet plutôt de bonnes relations, ce qui est assez important. Ensuite, j'arrive à vendredi, où il y avait la réunion sur le Collège des Saules. Donc le Collège des Saules, c'est ce collège qui est à l'est du quartier de la Villeneuve, proche du quartier des Géants, avec ce collège qui est encore utilisé par les élèves, mais le nouveau Collège des Saules est en construction une rue plus loin, ce qui va poser la question du bâtiment vide, qui notamment, normalement, est prévu pour les vacances de la Toussaint. Donc on a encore 6 mois. Bon, peut-être un retard, on peut peut-être imaginer que ce soit pour les vacances de Noël. Mais ça posera quand même la question d'un bâtiment vide, où pour l'instant, il n'y a rien de prévu dessus, ou en tout cas rien de public. Donc des habitants du côté des gens en baladins sont en train de se questionner là-dessus. On a eu une réunion vendredi. ce qu'il y a eu, c'est que il a été décidé notamment de se saisir des outils un peu participatifs sur la fabrique de la ville qui sont mis en place par la métro. Et notamment, un questionnement a été posé sur le Collège des Saules. Donc vous pouvez vous rendre sur un site de cartographie participative qui s'appelle plui-lametro.carticipe.fr. Et là-dedans, vous allez voir en fait une carte un peu à la mode Google, là, une carte interactive. Vous allez voir plusieurs projets et vous pouvez voter pour les projets. C'est un peu une mise en concurrence des projets, mais ça permet de faire du lobbying, notamment pour des espaces qui nous sont chers, ou en tout cas.
Du coup, ça va être quoi le projet sur le collège ?
Et ben, pour l'instant, c'est plutôt un questionnement en fait, le poser ouvertement. Et le PLUI, donc en fait, ça s'inscrit dans le PLUI, c'est le plan local d'urbanisme intercommunal. Donc c'est ce qui régit en fait ce qu'on a le droit de construire sur. On dessine sur une carte et on dit ici ce sera plutôt du logement, plutôt 30% logement, 30% commerce, plutôt de l'industrie. Et la petite particularité, c'est que maintenant c'est intercommunal, donc ça dépend de la métro et ça dépend plus de chaque commune. Voilà, donc ils sont en refonte du PLUI, comme on dit. Ça c'était pour la petite nouvelle sur le Collège des Saules. Et on va arriver sur une réunion que j'ai eue vendredi après-midi sur la question d'un four à pain à la Villeneuve. Ça revient. Donc c'est un projet porté par la régie de quartier qui fait déjà sa farine, son blé, et qui va moudre sa farine dans un moulin pas très loin de Grenoble. Donc l'idée, c'est un four pour le quartier, pour qu'on puisse notamment faire des fêtes de quartier avec l'utilisation de ce four à pain. Actuellement, il existe un four mobile qui est assez petit, donc qui est plutôt là pour la démonstration, mais il a l'avantage de pouvoir à la fois servir la Villeneuve et le village olympique.
Oui, on l'a eu pour la fête de quartier l'an dernier, oui.
Donc il a été question, une concertation a été menée là, pendant 6 mois sur ça, le four à pain, comment l'utiliser, où le placer. La question de où le placer n'est pas complètement résolue. Il va y avoir une réunion avec les services techniques de la ville pour voir aussi où est-ce que c'est possible de le faire. Mais c'est plutôt en bonne voie. L'idée, c'est de faire un chantier participatif et un four en terre cuite. Donc, on peut le modeler assez facilement comme on le souhaite. Plusieurs façons de cuisson, puisque dans différentes cultures, on n'a pas forcément le même type de four à pain. L'idée, c'est aussi de respecter, de pouvoir partager autour de la culture du pain. En installant forcément du mobilier de pique-nique à côté, pour pouvoir profiter. Et il a été aussi posé la question, est-ce qu'on pose ce projet au budget participatif ? Donc je rappelle que ça a déjà eu lieu l'année dernière. Le budget participatif, c'est des projets qui sont proposés dans un premier temps, sélectionnés à ce qu'on appelle la ruche au projet. Donc on divise par deux le nombre de projets proposés. C'est des gens qui sont assis autour d'une table.
C'est des projets proposés par les habitants.
Proposés par les habitants, exactement.
Sur le budget de la ville de Grenoble.
Sur le budget de la ville, qui sont de 800 000 euros, à diviser en deux catégories. La catégorie gros projet qui a plus de 100 000 euros et les autres catégories avec moins de 100 000 euros, sachant qu'il y a un gros projet de sélectionné et tout le reste des 800 000 euros vont au petit projet. Donc, ce qui permet de répartir cet argent. La régie de quartier aimerait proposer ce projet avec, on espère, moins de 100 000 euros. Normalement, il n'y a pas de souci sur ça. Et le portage se ferait par le baratin, par la régie de quartier, par les ateliers populaires d'urbanisme et peut-être Arc-en-Ciel, qui est une autre association du quartier, qui fait notamment le repas des 1000 couverts. Enfin, ça rentre en résonance aussi avec leur champ d'action. Le repas des 1000 couverts, c'est un repas qui avait été organisé, où ils avaient été presque 1000, et c'était l'idée de partager un repas entre voisins, entre gens du quartier.
Dans tout le quartier, oui.
Voilà. Bientôt vous allez recevoir, vous allez sûrement voir en fait que la régie a reposé un, un projet sur le four à pain. Et il ne faudra pas oublier d'aller voter en octobre, au moment où il faudra voter pour les projets, s'il est sélectionné à la ruche au projet, qui aura lieu en juin. Bah voilà, ça va être l'heure de nous quitter. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Et puis, on peut vous donner rendez-vous la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir. Les critiques sont bienvenues aussi sur le site, sur la page Facebook.
Oui, donc oradru-rks97fm.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Au ras des rues, l'émission qui, espérons-le, vous a fait prendre de la hauteur sur Radio Kaléidoscope 97 FM. À la prochaine. Yeah.